C'est la chronique des apatrides anonymes. Simon au micro avec vous. Bonjour tout le monde. On est sur les ondes de CKUT 90.3. Comme d'habitude, aux apatrides anonymes, nos enjeux de prédilection sont la sécurité et l'immigration. On ne fera pas exception aujourd'hui. En dernière partie de chronique, je vais vous parler de la Grèce, plus particulièrement des camps de réfugiés en Grèce. Quelques nouvelles de la Méditerranée. La catastrophe humanitaire se poursuit. Je pense qu'on vous en parle à peu près à chaque chronique, mais c'est inévitable. Je vais d'abord vous parler de nouvelles plus canadiennes. Un cas assez particulier de travailleurs temporaires d'origine guatémaltèque qui sont faits flouer par une agence de placement et la réaction plutôt bizarre de la Commission de l'immigration sur cette question-là. Je vais commencer par une question qu'on n'aborde pas souvent au Canada, la question des personnes sans papier, qui est un enjeu dont on parle beaucoup aux États-Unis. C'est un enjeu majeur, même dans les gros médias de masse, on en parle beaucoup en campagne présidentielle. Au Canada, c'est un peu plus occulté. C'est peut-être c'est moins gros comme phénomène qu'aux États-Unis ou en Europe, forcément, parce qu'on est un moins grand pays en termes démographiques, mais c'est quand même un phénomène assez important. On estime qu'il y aurait entre 500 000 et 1 million de personnes sans papier au Canada, donc c'est quand même beaucoup. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Ben, en fait, c'est une campagne de solidarité sans frontières, Femmes sans statut, qui est un collectif qui s'est formé il y a à peu près un an suite à l'élection du gouvernement Trudeau. Et depuis ce temps-là, ben, essaie de sensibiliser l'opinion publique et le gouvernement à la question des personnes sans papier et plus particulièrement des femmes sans papier, ce qui est un peu une double discrimination. Être une personne non documentée et être une femme, ça nous rend encore plus vulnérables, je dirais, à toutes sortes d'abus, d'exploitation, que ce soit dans des milieux de travail, de logement, avec ses proches. On n'a pas accès aux soins de santé, on n'a pas accès aux services d'urgence, on n'a pas accès à l'éducation pour les enfants. Bref, c'est une situation très difficile et on essaie de, via la campagne de Solidarité sans frontières, d'éduquer les gens là-dessus. Il y a eu des lettres ouvertes, il y a eu des lettres envoyées au ministre, il y a eu des demandes directes faites au premier ministre. Il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement, ni par le truchement du ministre, ni via le premier ministre ou son bureau. Zéro réponse là-dessus. Donc, le gouvernement, qui avait quand même rompu avec l'ère Harper sur toutes sortes de sujets en général, sur toutes sortes de sujets liés à l'immigration aussi, mais sur la question des sans-papiers, il y a zéro réaction. Il ne s'est absolument rien passé. Donc, le collectif des femmes sans statut poursuit sa campagne, est allé beaucoup à la rencontre des gens autour des stations de métro, dans les rues, près des épiceries, pour informer les gens sur ce phénomène-là, des personnes sans-papiers au Canada qui, d'après les réactions qui ont été obtenues, il semble que beaucoup de monde ne connaissait pas vraiment ce phénomène-là ou ne mesurait pas son ampleur, ne savait même pas que ça existait au Canada. Donc, il y a quand même un bon travail d'éducation qui a été fait et qui reste à faire. Comme je disais tantôt, on attend toujours une réponse du gouvernement qui semble occulter complètement cet enjeu-là des personnes sans papier au Canada. Donc, c'est pourquoi je vous invite, prenez vos papiers, vos crayons, à une manifestation samedi prochain. C'est organisé par le collectif des femmes sans statut et par Solidarité sans frontières, je crois. Rassemblement devant le bureau du Centre des femmes d'ici et d'ailleurs. L'adresse est le 8043 Saint-Hubert, c'est près du métro Jarry, c'est samedi prochain. À 13h, je vous donne l'adresse courriel si vous avez des questions. C'est tout au pluriel, femmes.sans.statut@gmail.com, donc femmes avec un s.sans.statut@gmail.com. Apportez vos masques et vos draps blancs en soutien et pour symboliser l'anonymat dans lequel sont maintenues les femmes sans statut. Je vous parle maintenant d'une autre histoire canadienne et toute récente aussi, dont les développements ne sont pas terminés. C'est ce cas des travailleurs guatémaltèques, ils étaient une quinzaine, qui ont été arrêtés, emprisonnés pendant, dans certains cas, jusqu'à un mois. L'histoire, en gros, c'est que plusieurs se disaient victimes de mauvais traitements, d'exploitation, de ne pas avoir été payés, de ne pas avoir reçu leur salaire par des fermes dans le centre du Québec. Et flairant la bonne affaire, il y a une agence de placement qui s'appelle Les Progrès Inc., qui est un drôle de nom, qui appartient à une personne qui est aussi d'origine guatémaltèque, donc qui a approché ces 15 travailleurs guatémaltèques-là pour les inciter à quitter leur emploi. Promettre finalement toutes sortes de choses comme un nouvel emploi, mieux rémunéré, mieux avec des meilleurs traitements. Et leur promettre aussi un nouveau permis de travail, ce qui est un peu particulier parce qu'on sait que ça ne marche pas comme ça. Donc, cette agence de placement-là qu'ils ont offert leur a demandé pas moins de 4 500 $ par personne, Donc, cette personne-là, à qui appartient l'agence, qui s'appelle Erwin Cordon, si je fais un calcul rapide, ça donne à peu près 60 000 $ qu'il a obtenu en quelques jours pour, soi-disant, aider ces 15 travailleurs guatémaltèques-là à se trouver un nouveau travail et à obtenir un nouveau permis. On sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Lui aussi, qui est prétendument un conseiller, une agence de placement pour personnes migrantes, sait parfaitement que ça ne fonctionne pas comme ça non plus, mais elle aura quand même fait ces promesses-là. Donc, réaction de la commission de l'immigration, ce que je vous disais que je trouvais un peu étrange, c'est d'arrêter les travailleurs temporaires guatémaltèques, les mettre en prison, les condamner à la déportation et leur interdire de séjour au Québec ou au Canada, excusez, pendant les 12 prochains mois. Donc, évidemment, il y a des groupes de pression comme le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes, l'Association des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, leur avocate aussi, Madame, je crois que c'est Sonia Ramirez, son nom, Suzanne Ramirez, pardon, qui condamne les gestes de la commission, qui condamne évidemment les gestes de l'agence de placement de Monsieur Cordon, qui les a floués, et qui condamne les mauvais traitements par les employeurs. Donc, tout ça, c'est présumé, évidemment. Mais pour que les employés temporaires souhaitent à ce point quitter leur employeur, il faut quand même que. Donc l'ambiance n'était pas au beau fixe. Ça devait pas être particulièrement legit, si je peux me permettre un mot comme ça. Et la réaction de la commission de l'immigration, de les emprisonner, de vouloir les déporter, c'est un peu particulier, comme je disais, parce que ces personnes-là ont été victimes d'abord de fausses promesses, et on peut présumer qu'ils ont été victimes aussi de mauvais traitements. Qu'est-ce qu'on fait avec les victimes? On les met en prison, on les criminalise. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Lui, M. Cordon, qui est le propriétaire de l'agence de placement, se voit comme une victime. Il parle d'une campagne de salissage. Les travailleurs se disaient maltraités. Je voulais bien faire. Là, je le cite. Les travailleurs se disaient maltraités. Je voulais bien faire. Je voulais pas aller contre la loi. Je les traitais comme des fils. Et eux me disaient, vous êtes comme un papa. Bla bla bla. Ben oui, ben oui. Fait que dernière nouvelle. Les prisonniers ont été libérés récemment. Leur avocate demande une révision des avis de déportation, une révision aussi de la décision de l'interdiction de séjour pendant 12 mois. Elle veut leur obtenir un permis de travail ouvert pour qu'ils puissent se choisir un employeur qui, on va le présumer, va leur offrir de meilleures conditions et va les payer. Les délais de traitement peuvent être longs. Donc, en attendant, il y a beaucoup de ces travailleurs-là qui dépendaient de cet argent-là pour faire vivre leur famille, leur envoyer de l'argent au Guatemala. Dans certains cas, il y en avait un, par exemple, qui avait un enfant malade, donc qui était venu travailler au Québec pour obtenir l'argent et acheter des médicaments pour pouvoir aider à guérir son fils. Donc, lui est rentré. Il y en a 13 qui sont restés ici. Il y en a un qui a été déporté par le gouvernement canadien suite à des irrégularités, paraît-il. Donc, on va souhaiter bonne chance à ces travailleurs-là. On va leur souhaiter qu'ils puissent choisir un employeur qui va bien les traiter. D'ailleurs, toute cette question de lier un employé temporaire à un employeur spécifique, ça, c'est peut-être quelque chose de la loi qu'il faudrait changer, puisque ça permet toutes sortes de dérives et d'abus de la part de l'employeur, puisque la personne qui travaille pour lui est complètement dépendante de lui. Alors, j'inviterais, si le gouvernement réagit un jour sur cette question-là, à réviser cet aspect-là du programme des travailleurs temporaires. Je vous parle maintenant de la Grèce. Comme je disais en introduction, je vais vous parler des camps de réfugiés qui se trouvent en Grèce. Donc, il y en a plusieurs. Les plus gros sont sur 4 îles. La route migratoire est plus ou moins stagnante. C'est-à-dire que ça n'avance pas, ça ne circule pas, ça s'agglutine, ça s'accumule beaucoup en Grèce, étant donné que depuis, je crois, environ février dernier, en tout cas depuis le début de l'année 2016, on a graduellement fermé les frontières en Europe continentale sur la route qu'on appelle la route des Balkans, donc dans les pays comme Bulgarie, Macédoine, Hongrie, Autriche même, donc la plupart de Serbie. Bref, la plupart de ces frontières-là sont plus ou moins hermétiques. Donc les gens, sachant cela, qui souhaitent gagner l'Europe du Nord, par exemple, arrivent en Grèce, qui est le premier pays européen qu'ils atteignent après avoir traversé à partir de la Turquie, et font une demande de régularisation à partir de la Grèce, puisqu'on sait que ça va être très difficile de poursuivre son chemin à pied. Il se trouve que les camps sont surpeuplés en Grèce. Les conditions à la base sont déjà pas bonnes. En étant surpeuplé, le niveau de tension entre les pensionnaires, je sais pas si je peux dire ça comme ça, entre les personnes réfugiées finalement, avec les autorités locales, avec la police, avec les citoyens et citoyennes qui habitent Sur place, disons que le climat est tendu, mais ça se passait relativement bien dans les derniers mois. L'extrême droite était plus ou moins silencieuse et voire invisible même, je pourrais dire. Ça a changé récemment. Donc, septembre, il y a eu le camp principal de l'île de Lesbos qui a brûlé à 60%. Le climat s'était particulièrement dégradé dans les jours précédents puisqu'on annonçait. Il y avait une rumeur comme quoi les déportations vers la Turquie allaient recommencer. Déportations qui n'avaient pas eu lieu depuis plusieurs mois. Donc déjà là, ça s'énervait un peu, c'était un peu plus tendu. Il y a eu un incendie qu'on pense être d'origine criminelle et qu'on pense pouvoir attribuer à des groupes d'extrême droite qui s'étaient manifestés quelques jours auparavant. Et des groupes qui seraient proches du parti néo-nazi Aube Dorée. Donc tout ça reste à vérifier, mais c'est sûr que c'est plausible. C'est au mois de septembre, une saison, je crois, un peu plus froide où il y a de la pluie. Donc, on voulait reloger le monde rapidement. Donc, il y a eu toute une opération de d'abord retrouver les gens, de relocalisation, de reconstruction qui a été assez complexe et qui n'est pas terminée non plus à l'heure actuelle. Les groupes d'extrême droite, suite à l'incendie, se sont encore plus manifestés. Il y a eu des députés d'Aube Dorée qui sont présentés sur place pour aider à l'organisation de ce qu'on appelle des groupes d'autodéfense citoyenne là-bas contre les méchants réfugiés. Je vais vous citer une madame Lena Antinoglou, qui est une militante active au PICPA, qui est un camp ouvert géré par des volontaires. Donc, j'ouvre les guillemets. Ils crient à nos volontaires des slogans d'une violence inouïe. L'accord Union européenne-Turquie a totalement changé la donne ici. Alors qu'il y avait une solidarité exemplaire et un climat plutôt calme, avoir des milliers de gens coincés comme ça de manière indigne dans des camps pleins à craquer a commencé à créer des tensions de plus en plus vives. Et aujourd'hui, les fachos tentent de gagner du terrain. Et suite à cet incendie-là, le climat s'est aussi tendu aux abords de tous les camps de réfugiés en Grèce, dont aussi évidemment ceux à l'île de Kos, de Chios et de Léros. Qui sont les îles, comme je disais en introduction, les plus touchées par le surpeuplement des camps. Donc voilà, dans plusieurs camps des îles grecques, le gouvernement envoie des ferries, des traversiers, des assez gros bateaux là, où on peut loger du monde temporairement. Que ce soit parce qu'il y a eu trop d'incidents violents et les gens ont peur, ou parce qu'il y a eu un incendie et donc le camp n'existe plus, ou parce qu'on est en train de reconstruire un camp. Ce qui va arriver sur l'île de Chios, le gouvernement grec a décidé de vider le camp de Souda. Donc, ça va être une énorme opération. Il y a des milliers de personnes qui habitent là, dans un contexte assez insalubre, on s'entend. Donc, c'est bien de le faire, mais toute cette période de transition va être assez complexe et assez pénible aussi pour la plupart des gens. Donc, voilà pour la Grèce où il y a beaucoup moins de personnes réfugiées qui arrivent qu'avant, évidemment, à cause. De la fermeture des frontières à cause de l'accord Union européenne-Turquie, qui fait en sorte que, on crée une situation un peu stagnante, mais d'engorgement, et il y a quand même des personnes réfugiées qui arrivent, là, c'est pas complètement tari comme exode. Là, par contre, où ça a vivement repris, vivement, le mot est mal choisi, mais du côté de l'ancienne route qui était la plus empruntée, c'est-à-dire la longue traversée Libye, Italie, les réseaux de passeurs sont retournés, sont bien organisés, la demande est très forte, il y a énormément de gens, des milliers qui attendent pour traverser, qui sont prêts à dépenser des milliers de dollars. Donc la situation, mais encore une fois, comme les années précédentes, on bat des records en termes de disparus, en termes de personnes mortes. Dans une traversée qui est très dangereuse et qui se fait dans des conditions épouvantables. Vous voyez juste entre les chiffres les plus récents que j'ai obtenus, entre les 12 et 17 novembre, donc dans le courant de la semaine dernière, 340 personnes mortes ou disparues pendant 4 naufrages, tout ça en 4 jours. Ce qui a fait monter le nombre total pour l'année 2016 au nombre de personnes mortes ou disparues à 4 500 pour les personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée. Le total pour 2015, c'était 3 770 et 2016, l'année n'est même pas terminée, on est déjà à 4 500. Donc c'est un nouveau record battu, un triste record. Je vais vous laisser sur une citation de Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, qui nous explique un peu qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres années, outre le fait qu'il y a plus de morts, mais pourquoi? Donc, je le cite, la cruauté est choquante. Les passeurs forcent les gens à partir, même quand les conditions en mer sont épouvantables. Quand ils arrivent sur la plage, les personnes qui ne veulent pas monter à bord sont contraintes de le faire, parfois avec violence. Une fois que tu as payé, tu ne peux plus reculer. Donc, dernière statistique avant de vous quitter. À ce jour, il y a 160 000 personnes qui ont posé le pied en Italie en 2016. C'est 13% de plus de personnes qui sont arrivées en Italie que par rapport à 2015. C'était la chronique des Apatrides Anonymes avec Simon. Dans 2 semaines, la chronique sera de retour avec Mathieu, qui vous parlera, comme à notre habitude, des enjeux liés à la sécurité, l'immigration, les frontières. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à l'émission En profondeur sur les ondes de CKUT.